Très bien. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Philippe Moore, je suis Irlandais du Nord, donc de Belfast à l'origine. Et je suis marié, ma femme s'appelle Rachel, j'ai 5 enfants. Julia qui a 16 ans, Anna 14, Abigail 12, Théo, le seul garçon, qui a 7 ans, et Abigail qui a 4 ans, bientôt 5 ans. Donc voilà qui je suis, d'où je viens. Et ce que je fais ici en France, je suis installé depuis 10 ans maintenant en France, en région parisienne. Bonjour Thierry, content de te voir. Et donc du coup, j'ai été appelé à être pasteur de l'église baptiste de Lagny-sur-Marne, donc une église de l'association baptiste. Et depuis 10 ans, on est là. Et pendant ces 10 ans, Dieu nous a fait grâce en nous donnant l'occasion d'implanter pas mal d'églises autour de notre église à Lagny-sur-Marne. Il m'a aussi donné l'occasion de servir un réseau d'implantation d'églises qui s'appelle Acte 29. Acte 29 est un réseau d'églises qui implante d'autres églises dans le monde entier. Il y a pas mal d'églises qui commencent à voir le jour en France associées avec Acte 29. On n'est pas évidemment les seuls qui implantent des églises en Europe francophone ni en Europe, mais on veut, si on peut, aider les uns et les autres à implanter des églises de manière plus efficace et de manière plus solide. Et donc, mon rôle à temps plein, c'est d'être directeur européen de ce réseau d'églises Acte 29. Et donc, de ce fait, je voyage en Europe où je rencontre des implanteurs d'églises et des équipes d'implanteurs d'églises pour leur donner quelques conseils que nous avons glanés au fil des années à Acte 29 et pour accompagner ces implanteurs, ces équipes d'implantation. Et le but de cet atelier, c'est à la fin, donc dans une heure, que j'aurai donné envie à un certain nombre de relever le défi de la mission proche de chez vous en voulant implanter d'autres églises dans votre région, dans votre ville, en France, en Suisse, en Belgique, en Europe francophone en général. Parce que relever le défi de la mission proche de chez nous, c'est ça. C'est voir les besoins qui sont à côté de chez nous. Mais ce n'est pas juste cela. Donc on va commencer la présentation dans un instant. Bienvenue, bienvenue. En parlant plus généralement de la mission d'un être humain. Qu'est-ce que c'est un être humain et qu'est-ce qu'il a comme mission si on peut parler d'une mission d'un être humain? Et pour commencer cela, j'aimerais vous montrer un petit extrait. C'est la bande-annonce d'un film qui a été très regardé ces derniers temps.
You either follow my rules, follow my rules.
Thank you.
I can do it a different way.
No, that's fine. Thank you.
Tu veux voir?
On va mal.
You're fired.
It's Christmas.
Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year.
I just heard you play, and I want to... It's kind of strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I think so.
Qui a vu le film La La Land? Pas autant que je pensais. En tout cas, dans ce film, La La Land, il est question de mission. Et ces deux personnages qu'on a vus à l'écran, donc le garçon et la fille, avait une mission qu'il sentait obligé de remplir. Pour lui, c'était ouvrir un club de jazz et il a dédié sa vie à cela. Et pour elle, c'était être actrice et écrivaine, donc elle allait écrire des films. Et c'est une histoire d'amour où les deux se mettent ensemble, ils poursuivent chacun de son côté aussi leur mission et finalement, leurs missions respectives les séparent. Et donc leur mission d'ouvrir un club de jazz ou bien d'être actrice et d'écrire des films a pris le dessus sur une autre mission que tout le monde dans le théâtre veut, à savoir la mission d'être ensemble. Mais ce n'est pas le seul film qui parle de mission ces jours-ci. Si on regarde le film Lion, quelqu'un a vu le film Lion? Voilà, il y a quelques personnes. Donc la mission, c'est de retrouver sa famille. Et ça donne tout le sens au film. Et puis les figures de l'ombre. mes fils l'ont vu. Qui a vu les figures de l'ombre? Vous n'êtes pas très cinéaste, c'est dommage. Mais là, c'est remarquable. Est-ce que vous savez que pour la NASA, les personnes clés qui ont fait les calculs et tous les maths nécessaires pour envoyer les personnes sur la Lune, c'était des femmes africaines, d'origine africaine. C'était pas des hommes blancs qu'on voit toujours à la NASA, mais c'était des femmes là qui faisaient les calculs, qui faisaient les maths, c'était magnifique. Et ces femmes là avaient l'impression d'avoir une mission qui était de travailler comme cela dans cet endroit là pour cette raison là. La conviction d'avoir une mission change une vie. Si vous avez la conviction d'avoir une mission, votre vie va diriger entièrement par cette mission que vous avez en tête. Or, en Europe francophone, depuis le temps de Sartre ou bien de Camus, et qui a lu Sartre et Camus? Ah, vous êtes plus lecteur que cinéaste, c'est très bien. Depuis Sartre, Camus et compagnie, ce qu'on appelle l'existentialisme a pris le dessus. Qui pourrait résumer en deux mots l'existentialisme? Ah, il y a deux volontaires, mais je vous en prie, je pensais que personne n'allait oser lever le... Vas-y.
Je me souviens, c'est pas on est ce qu'on se construit, peut-être.
Exactement. C'est-à-dire qu'on est ce qu'on construit. L'existence, donc le fait d'exister, précède l'essence, la raison pour laquelle on existe. C'est Sartre qui dit cela. L'existence précède l'essence. Et cela veut dire que pour vous, tout le monde qui est ici, et pour tout le monde en Europe francophone, on doit construire sa mission, on doit construire son existence. Et il n'y a rien qui peut nous informer par rapport à cela en dehors de nous-mêmes. C'est-à-dire que si moi je choisis que ma mission, c'est de faire des... Ah, il y a des personnes qui veulent entrer, mais qui ne peuvent pas entrer, je pense. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Entrez. Si je veux faire des braquages et je me donne comme mission ultime de mon existence de faire des braquages, il n'y a rien qui peut me dire que c'est une mauvaise mission. C'est une mission que je construis, mon existence précède mon essence et je fais ce que je veux faire. Sartre a dit, il n'y a rien qui nous permet de différencier sur le plan moral ou éthique. Le fait d'aider une vieille dame à traverser la rue et le fait de la pousser sous le prochain bus. Il n'y a rien qui nous permet de décider si l'un ou l'autre est meilleur. La mission qu'on se donne vient entièrement de nous. Et Necfeu est entièrement d'accord avec ce point de vue philosophique. Et c'est le prochain clip.
Les cours, la fait mal le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quel héros il mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien.
J'ai pas voulu montrer tout le clip pour des raisons. Mais regardez ce que Necfeu il dit et il est d'accord avec Sartre et Camus. Et lorsque Camus, Sartre et Necfeu sont tous d'accord, c'est qu'ils ont raison quelque part. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal quand tu tiens. Même si je n'ai rien prouvé, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. C'est-à-dire que quelle mission ai-je dans ce monde-ci? Il y a une pièce qui manque et je ne sais pas quelle pièce c'est et je la cherche tout de même. En passion de drogue, les jeunes sont fêtards. Quelle ironie de mourir en position fétale. Vous voyez, mourir ou bien naître, quelle différence? Je nais, je meurs dans la même position. Quel drame. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux, mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réservera, on verra bien, vas-y, viens, on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. On verra bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Et c'est la question que je vous pose et que je me pose et que mes filles se posent et que leurs camarades de classe se posent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de dire que nous avons tout de même une mission? À savoir que, au lieu de dire que l'existence précède l'essence et que je dois tout inventer pour moi-même et que rien ne me dit, rien ne me guide, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre de dire que l'essence de ce que c'est d'être un être humain précède mon existence personnelle? Est-ce qu'il y a une mission qui est commune à nous tous? Si oui, laquelle? Et comment entrer dans cette mission? Et donc, si on veut relever le défi de la mission proche de chez nous, et on va voir qu'à la fin, on va parler de l'implantation de nouvelles églises en Europe francophone, il faut comprendre ce que nous sommes en nous-mêmes. Il faut comprendre la mission que Dieu nous donne dès le départ. Je ne sais pas si vous aimez les séries. Moi, j'aime bien les séries, les regarder. Et si vous pensez à la Bible comme à une série, il y a des saisons, il y a des épisodes, et des saisons et des épisodes qui nous instruisent par rapport à notre mission. Et donc, je vais parler de saisons, je vais parler d'épisodes, et je vais parler de la Bible comme étant une grande histoire qui commence et qui finit, et qui, entre-temps, il y a tout un tas d'épisodes, tout un tas de saisons qui nous permettent de comprendre quelle est notre mission. Je vais tout recommencer dès le début pour les nouvelles personnes qui arrivent. Ouais. Je vous en prie. Ah, c'est une blague. C'était pas de votre faute, hein. La queue pour manger, c'était quelque chose. S'il fallait diviser la Bible en saisons, en épisodes, on commence évidemment avec la création. Et la création de l'être humain nous donne justement le sens de notre existence. Et si vous voulez vivre votre vie chrétienne, si vous êtes chrétien, ou si vous voulez comprendre ce que c'est d'être chrétien, si vous êtes encore en chemin vers le fait d'être chrétien, il faut comprendre la mission que Dieu donne à l'être humain dès le départ. Donc si vous avez la Bible entre les mains, ça fait du bien de tourner à ces passages. Sinon, je vais les lire et je vais les expliquer, donc vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Lorsque Dieu a fini la création au sixième jour, il va créer l'être humain. Et lorsqu'il crée l'être humain, il va donner à l'être humain une identité, et de cette identité va découler sa mission. Ce que je suis, mon identité qui m'est donnée par Dieu, définit, détermine ma mission sur cette terre. Et quelle différence entre ce qu'on a vu, Necfeu, Sartre, Camus, et ce que nous voyons dans la Bible? C'est pas du tout la même chose. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu dit la chose suivante, Genèse 1, 26. Faisant des humains, l'être humain, à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. L'identité que Dieu donne à l'être humain, c'est d'être son image. Lorsqu'on va retrouver ce mot-là plus tard dans la Bible, ce mot va être traduit par le mot « idole ». Image, idole, c'est la même chose. Lorsque Dieu fait le monde, il fait une sorte de temple. Et dans ce temple, il place une idole, une image, qui doit lui ressembler. À savoir qu'il doit refléter et relayer, communiquer la gloire de Dieu pour le reste de la création. L'être humain domine sur les poissons, domine sur les bêtes, domine sur les animaux, un peu comme Dieu domine sur toute la création. L'image de Dieu chez l'être humain, c'est le fait de pouvoir être comme Dieu dans le monde. L'identité de l'être humain est là, et la mission de l'être humain de dominer sur le monde et de remplir le monde découle de cette identité-là. Et la Bible va plus loin encore dans Genèse chapitre 2 au verset 15. Là, c'est la deuxième fois que l'auteur raconte l'histoire de la création. Et cette fois-ci, il fait une sorte de zoom sur Adam et sur le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'on va découvrir à ce moment-là? C'est quelque chose de remarquable qui m'a mis du temps, moi-même, à comprendre. Lorsque j'ai entendu pour la première fois l'histoire de la création du monde, j'avais l'impression que Dieu avait fait quelque chose d'absolument parfait. C'est-à-dire que le monde tout entier était jardin d'Éden. Que le monde était un grand jardin d'Éden sur toute la surface de la terre. Mais si on lit attentivement Genèse 2, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le monde que Dieu a créé est hostile à la vie. Pas d'eau, pas d'herbe, pas d'arbustes. Ça, c'est Genèse chapitre 2, les premiers versets. Et que dans ce milieu hostile à la vie, Dieu plante un jardin dans un seul endroit de la terre, à l'est. Et il appelle ce jardin le jardin d'Éden. Et Dieu crée l'homme en dehors de ce jardin. Il prend de la terre, comme vous le savez. Et il place l'homme dans le jardin. Et lorsqu'il place l'homme dans le jardin, Genèse 2, 15, écoutez ce qu'il lui dit. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Deux verbes. Deux verbes qui, désormais, doivent caractériser toute votre vie. Vous devez, comme Adam, cultiver et garder. Moi, je dois cultiver et garder. Tout ce que l'être humain a à faire est dans les deux verbes de cultiver et de garder tout ce que Dieu a fait. Prenez tout ce que vous faites de légitime. Et vous pouvez décrire ces choses sous ces deux verbes-là, de cultiver et de garder. Si vous faites vos devoirs, si vous êtes au lycée, vous êtes en train de cultiver et de garder quelque chose que Dieu a créé, à savoir votre cerveau, votre intelligence, votre capacité de travail, vos connaissances. Si vous vous abstenez de choses que Dieu a interdites, vous êtes en train de vous garder de choses nocives qui peuvent vous faire du mal. Cultiver et garder, c'est ce que Dieu demande à chaque être humain de faire. Adam d'abord et puis le reste de l'humanité par la suite. Et en cultivant et en gardant le jardin d'Éden, qu'est-ce qui était censé être le résultat de cela? Que petit à petit, Adam et puis Ève et puis leurs enfants et puis leurs petits-enfants et puis le reste de l'humanité issue d'Adam et d'Ève devaient élargir les frontières de ce jardin d'Éden, afin que le jardin d'Éden remplisse toute la terre et que toute la terre soit remplie d'images de Dieu. Des milliards et des milliards de personnes créées à l'image de Dieu, qui reflètent la gloire de Dieu, qui reflètent la grâce de Dieu dans toute la création. Ça, c'est la vision de Dieu dès le départ, dès la création. Aujourd'hui, il y a 7 milliards et un peu plus d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu qui ne font pas cela, qui n'arrivent pas à refléter la gloire et la grâce de Dieu. Mais saison 1, épisode 1, c'est ça qui était censé être le but de la création. Notre essence précédait notre existence parce que Dieu avait un plan, un projet bienveillant de cultiver et de garder toute la planète pour sa gloire. Et justement, la mission de Dieu est sa propre gloire. Dieu fait tout ce qu'il fait pour sa propre gloire. Et lorsque on dit cela, il y a beaucoup de personnes qui réagissent, qui disent, mais écoutez, c'est un peu égoïste cela. Si moi, je faisais ça, on me taxerait d'égoïste, de mégalomane, de tous les noms. C'est pas possible, un Dieu qui fait tout pour sa propre gloire. Et pourtant, la Bible dit sans cesse qu'il agit sans cesse pour sa propre gloire. Dieu fait tout pour sa propre gloire. À lui et pour lui et de lui sont toutes choses pour sa gloire. Et puis, non seulement Dieu fait toutes choses pour sa gloire, mais il nous demande de tout faire, nous, pour sa propre gloire aussi. Alors, ça devrait vous choquer quelque part. De vous dire que Dieu vous a créé pour sa propre gloire. Vous, l'image de Dieu, pour refléter sa gloire dans son monde. Votre vie ne vous appartient pas. Votre vie appartient au Dieu créateur qui vous a créé pour une raison précise, à savoir sa gloire. Et lorsqu'on pense à cela, évidemment, ça nous donne le vertige. Déjà, est-ce que je suis capable de le faire? Ça, c'est une autre question. Mais un Dieu comme cela, comment le comprendre? Comment comprendre un Dieu qui fait tout pour sa gloire? Alors, si vous voulez expliquer cela aux uns et aux autres, admettons qu'il y a quelqu'un qui vous pose une question par rapport au Dieu de la Bible et qui n'est pas encore chrétien, et peut-être c'est votre cas ici. Vous n'êtes pas encore chrétien, vous êtes en chemin. Comment expliquer cela? C'est parce que Dieu est l'être le plus glorieux qui soit, qu'il doit être glorifié. Et c'est parce que je ne suis pas l'être le plus glorieux qui soit, que je ne devrais pas être glorifié. Autrement dit, ce serait un péché pour Dieu de ne pas rechercher constamment sa propre gloire, parce qu'il est justement, objectivement parlant, la chose la plus glorieuse de l'univers. Et ce serait un péché pour moi de ne pas chercher à le glorifier, lui, constamment, parce qu'il est la chose, la personne la plus glorieuse qui soit. Tout comme tout tourne autour du soleil dans notre galaxie, de même, tout tourne autour de Dieu, parce qu'il est le plus glorieux. Notre mission, et donc le fait de relever le défi de la mission proche de chez nous, c'est de chercher constamment la gloire de Dieu comme son image qu'il a placée dans le monde pour cultiver et garder tout ce qu'il a créé afin de remplir toute la terre de sa gloire. Vous savez très bien que l'être humain, Adam et Ève, n'ont pas respecté cela, mais ont cherché, Genèse 3, leur propre gloire. Le péché. Paul va nous dire plus tard que le péché, c'est se priver de la gloire de Dieu, c'est rater la cible de la gloire de Dieu. Il va nous dire dans Romains chapitre 1 que l'erreur de l'être humain, c'est de ne pas glorifier Dieu comme Dieu et de glorifier autre chose que Dieu, d'avoir des idoles autres que Dieu dans son cœur. Mais notre mission reste celle d'Adam et d'Ève dès le départ, à savoir la gloire de Dieu. Si on devait nommer une autre saison de la Bible, on pouvait dire que la saison 2, c'est Abraham et la bénédiction. Malgré le fait que l'être humain a tourné le dos à Dieu et a voulu chercher autre chose que la gloire de Dieu dans sa vie, Dieu n'a pas cessé de vouloir bénir l'être humain, de vouloir bénir l'humanité et à travers l'humanité, de bénir le cosmos tout entier. Lorsqu'on lit à Genèse chapitre 12, nous voyons justement que Dieu a un projet de bénédiction sans limite. Il veut bénir Abraham, et à travers Abraham, il veut bénir toute la création, et à travers tout cela, il veut remplir la terre de sa bénédiction. Écoutez bien, Dieu n'est jamais en rupture de stock de bénédiction. Moi, je peux être en rupture de stock d'amour, de patience, de compassion. Mes enfants le savent très bien. Les 5 enfants que j'ai, parfois, je veux dire la majorité des cas, je suis patient, je suis aimant, mais je suis vite en rupture de stock de compassion et de patience. Je suis comme cela. Vous l'êtes aussi. Vous savez très bien que vous avez une limite et dépasser cette limite-là, plus rien. Dieu, lui, est un océan de bénédictions infinies qu'il veut déverser sur l'humanité en Jésus-Christ. Et il nous appelle, nous les êtres humains, créés à son image, à participer à cette mission de bénédiction. et de partager cette bénédiction avec le monde entier. Et donc la mission à laquelle nous sommes appelés, qui est celle de chercher la gloire de Dieu, est aussi une mission qui cherche à bénir les êtres humains autour de nous. Et c'est la même chose finalement. Nous avons une mission, nous avons quelque chose qui nous dépasse, qui nous remplit, qui nous porte. Et Dieu nous appelle à participer, à relever ce défi-là de la mission proche de chez nous. Mais nous savons aussi que lorsque le peuple de Dieu a abandonné les voies de Dieu, et lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, et lorsque le peuple de Dieu a trouvé un pharaon qui a réduit le peuple d'Israël à l'esclavage, qu'à ce moment-là, Dieu est encore une fois intervenu dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire de l'humanité. Il a sauvé son peuple et il leur a donné la loi. Et cette loi résume, encore une fois, la mission que Dieu a donnée à l'humanité. La loi, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui décrit, encore une fois, la mission que Dieu donne à l'humanité. Et si on regarde dans Deutéronome, au chapitre 5, les versets 6 et 7, nous le voyons très bien. Dieu dit, « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je reste votre préoccupation principale. Ma gloire doit rester votre préoccupation principale. Et puis, la suite des commandements, les commandements 5 à 10, résume comment on doit mettre cela en pratique avec les êtres humains qui nous entourent. Ne pas les tuer, ne pas leur voler, ne pas mentir à leur sujet, ne pas envier ce que eux, ils ont, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Si on veut relever le défi de la mission proche de chez nous, nous ne pouvons pas éviter de prendre au sérieux ces deux commandements-là. Pour être redevable vis-à-vis de Dieu par rapport à ces deux commandements-là, aimer Dieu et aimer son prochain, il suffit de se lever le matin et de respirer. À ce moment-là, vous êtes redevable devant Dieu pour aimer Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu de toute ton intelligence, de toute ta force, de toute ton âme, et aussi d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors, qui aujourd'hui l'a fait parfaitement? Personne. Personne n'a jamais réussi à faire cela de manière parfaite. Et pourtant, comme nous avons dit, cette mission-là nous est donnée dès la création. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons aimer Dieu et nous devons aimer notre prochain. Le défi de la mission proche de chez nous commence là. Alors, si on peut réfléchir ensemble, et je vais vous donner un moment pour discuter entre vous, parce qu'il fait chaud et je sens que moi j'ai chaud et vous avez chaud aussi. Dites-moi, après une discussion entre vous, comment on peut aimer son prochain concrètement aujourd'hui en Europe francophone? Bon, vous allez parler entre vous deux, là, trois, petits groupes, là, et après on va écouter quelques réponses. Comment est-ce qu'on peut aimer son prochain aujourd'hui en Europe francophone?
J'ai un ami et l'ami Sam, il était mon voisin et c'était à Belfast, près de Belfast. Et cet ami-là ne connaissait pas le Seigneur, n'était pas chrétien. Et puis, en allant d'une chose à l'autre, il s'est intéressé à l'Évangile, il s'est converti. J'ai eu le plaisir de le baptiser il y a 12 ans de cela maintenant. Mais à un moment donné, il m'a dit... J'entends parler de la mission dans l'Église. Et pour moi, c'est bizarre parce que les gens partent loin, 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 loin pour aimer leur prochain, mais ils n'aiment pas leur prochain chez eux. Alors, comment... Je ne comprends pas Philippe. Il était un peu indigné. Et je l'ai compris. Et lorsqu'on va parler de relever le défi de la mission, que ce soit au loin ou proche, si on n'aime pas son prochain de manière pratique dans le quotidien, de quoi part-on lorsqu'on parle d'une mission? si je ne suis pas capable d'aimer les gens qui m'entourent, et cela en guise de preuve que j'aime vraiment le Seigneur qui les a créés, pourquoi voudrais-je partir plus loin pour aimer des personnes que je ne connais pas lorsque je suis montré incapable d'aimer les gens autour de moi? Vous voyez la logique, hein? Sam avait raison. Alors, qu'est-ce que vous avez émis comme idée dans vos petits groupes? Comment peut-on aimer concrètement, pratiquement, notre prochain en Europe francophone aujourd'hui? Vous les mains et puis je vais demander à Thierry de lancer la... Vas-y, tu dois avoir des idées, Thierry.
Il y a une réponse type ou pas?
Non, pas du tout, non, non. Je veux juste des réponses. Une réponse quelconque.
L'exercice au quotidien, il est valable. En fait, je pense à... Je fais beaucoup de projets, mais au loin aussi. Mais je fais aussi au frère, maintenant, dans une église. Et à chaque fois, je me dis, mais si je ne suis pas capable d'aimer les gens, tout ce que je peux faire, le bien que je peux faire, il ne sert à rien.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, du coup, c'est vraiment besoin d'être transformé dans la manière dont je regarde celui qui... Mon prochain, en fait, celui qui arrive devant moi. Et arriver, je pense souvent à ce qu'on vit en voiture, c'est comment je peux être un signal positif pour les autres.
Ouais.
Là où souvent la réaction, elle est...
Ouais, ouais. J'ai entendu une fois une histoire, c'est assez drôle comme histoire, en tout cas je l'ai trouvé drôle. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive derrière quelqu'un d'autre dans une file d'attente en voiture. Il commence à klaxonner, qui sort de la voiture, qui engueule la personne qui est devant. Et puis la police embarque et prennent la personne carrément et l'emmène au commissariat. Il dit, mais j'ai juste engueulé quelqu'un. Et la police dit, oui, mais votre voiture, il y avait le poisson. Et on s'est dit qu'un chrétien ne ferait pas ça. Et donc, on a pensé que vous avez volé la voiture parce que justement... Mais justement, notre comportement de chrétien doit être visible dans l'amour concret que nous avons les uns pour les autres. Le fait, dans mon voisinage, de tondre le gazon du vieux monsieur qui habite à côté de moi est une façon concrète de montrer que je l'aime. Le fait de passer du temps à écouter la voisine en face, qui parle beaucoup, est un signe que je l'aime. Le fait pour ma femme de prendre des repas aux personnes malades ou aux personnes qui viennent d'avoir des bébés est un signe visible d'un amour du prochain. Et il y a beaucoup d'exemples. Et lorsque je regarde mes filles au lycée, au collège, je me demande comment est-ce que quelqu'un qui a cet âge-là peut justement aimer concrètement son prochain. Relever le défi de la mission, c'est retracer toute l'histoire de la Bible jusque dans le Jardin d'Éden et voir que Dieu nous demande de refléter sa gloire dans l'amour de sa création, de cultiver et de garder, y compris les relations que j'ai avec les gens qui m'entourent. Et donc, lorsque je suis là, la personne qui est en face de moi devient de ma responsabilité. Lorsque je suis dans le RER, souvent on est énervé. Le RER, c'est un système de transport à Paris. Ça, vous le savez, en tout cas. Voilà, très bien. Lorsque je suis dans le RER, il y a un jeu que je fais parfois avec moi-même. Parce que je suis souvent pas très heureux, très content d'être dans le RER. Et le jeu consiste à faire ceci. J'essaie de... Je scanne dans la rame de RER et j'essaie de voir quelqu'un. Et cette personne-là, j'essaie de la regarder. Jusqu'au moment où je me rende compte que c'est quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et qui est de mon devoir, de ma responsabilité de l'aimer. Parce que souvent, on regarde les gens qui nous entourent, non pas avec ce regard de l'amour du prochain parce que je suis aimé de Dieu, mais avec un regard de méfiance, un regard de mépris, un regard parfois de jalousie, un regard de compétition. Un regard, comme si ce que je disais par rapport à la bénédiction de Dieu n'était pas vrai. Dieu n'est jamais en rupture de stock de bénédiction. Et cela me donne la force d'aimer mon prochain. Parce que je sais que s'il bénit cette personne-là à travers moi, il est capable de me bénir en retour. Et de me bénir, et de me bénir, et de me bénir. Tout comme il est capable de bénir tout un chacun. Dieu n'est jamais en rupture de stock de bénédiction. Et donc, sur cette base-là, je peux aimer Dieu qui m'aime et je peux aimer mon prochain, sachant que je peux donner sans avoir peur de l'avenir. Et je ne connais pas vos contextes, j'aimerais bien les connaître. Mais comment aimer mon prochain? Je parlais dans la file d'attente pour le repas là, à une jeune fille qui voulait aller en Roumanie aimer les personnes qui étaient prises dans le trafic de drogue. Et une semaine avant son départ, elle a découvert que sa maman, depuis guérie, donc Dieu merci, a été atteinte d'un cancer. Et donc, qui aimait dans cette situation-là concrètement? Donc, elle a pris la décision de rester avec sa maman et de prendre soin de sa maman. Et puis, elle aura, je l'espère en tout cas, l'occasion d'aimer des personnes loin de chez elle à un autre moment. Mais prendre la décision d'aimer les personnes concrètement devant toi, c'est la première chose que Dieu nous demande de faire. Et parler de la mission dans l'abstrait ou au loin, lorsqu'on n'a pas résolu cette question-là. Voilà. Mais la question que j'ai, et je pense que vous l'avez aussi si vous êtes comme moi, c'est que face à mon incapacité à aimer mon prochain comme je devrais, à aimer mon prochain comme j'aime même moi-même, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 22, 37 à 39. Qu'est-ce que je dois faire? Comment pourrais-je avancer? Et la Bible n'a d'autre solution que celle de la Pâque, de celle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et j'ai pris un verset, mais parmi des milliers de versets que j'aurais pu citer. 1 Pierre 2, 24. Lorsque je suis en manque de compassion, en manque de capacité pour relever le défi de la mission proche de chez moi, je regarde à la croix et au tombeau vide de Jésus. Lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Je médite ce que Jésus a fait à mon égard et pour moi, afin de pouvoir par la suite me mettre au travail pour lui. Lorsque je regarde Jésus en croix, je vois son corps souffrant, où il porte mes péchés, tous mes péchés, passés, présents et à venir. Tous mes péchés sont cloués dans son corps sur le bois. Et par ce fait, je meurs à mon péché, définitivement, je suis mort à mon péché, et je vive maintenant pour la justice. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est le fait d'aimer mon prochain comme moi-même. Je médite l'œuvre de Jésus pour moi, pour que l'œuvre de Jésus pour moi devienne une réalité en moi, pour que l'œuvre de Jésus puisse être une réalité par moi. Mais c'est toujours cette succession-là, cet ordre-là. L'œuvre de Jésus pour moi, d'abord. Et je médite cette œuvre objective, historique de Jésus sur la croix. Et ensuite, cette œuvre-là que je regarde, que je médite, commence à être réel en moi. Je suis transformé de l'intérieur. Et de ce fait, je commence à pouvoir œuvrer pour Jésus dans le monde qu'il aime tant. Pour moi et en moi et finalement au travers moi. Et lorsque je suis en manque d'amour pour mon prochain, je ne redouble pas d'efforts pour l'aimer mieux. Je reviens à la base et je regarde de nouveau Jésus en croix. Et je laisse cette œuvre-là me fondre de nouveau le cœur qui est si facilement endurci chez moi. Et donc, le défi de la mission aux proches commence là. Une question de notre cœur et notre attitude devant Dieu. Mais une fois qu'on a contemplé l'œuvre de Jésus sur la croix, une fois qu'on a compris que par la résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la haine, il a vaincu l'indifférence que je peux avoir vis-à-vis de mon prochain, je peux entrer par la suite dans la mission qu'il me donne. Et la mission selon Jésus, c'est une sorte de reprise de la mission initiale que Dieu a donnée à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée », Matthieu 28, 18, « Donc, allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai ordonné, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Lorsqu'il dit cela, il ne dit pas autre chose que ce que Dieu a dit à Adam et Ève dans Genèse 1, 26 et 28. « Remplissez la terre de mon image qui reflète ma gloire et ma grâce. » Il ne dit pas autre chose que ce qu'il a dit à Adam dans Genèse 2, 15. « Cultive et garde ce que j'ai créé pour leur bien et pour ma gloire. » Lorsque j'annonce la bonne nouvelle à mon prochain, en lui montrant par ma vie que je l'aime, je cultive et je garde ce que Dieu a créé de plus précieux. Et on peut le faire à tous les niveaux. Lorsque je prends soin de ma femme, lorsque je l'aime, lorsque je la protège, lorsque je la cultive, entre guillemets, je prends soin de ce que Dieu a créé. Et lorsqu'elle fait la même chose pour moi, c'est réciproque. Et lorsque nous prenons soin de nos enfants, nous cultivons et nous gardons ce que Dieu nous a donné de plus précieux. Et nous travaillons ainsi à remplir la terre d'images de Dieu qui reflètent sa grâce et sa gloire. Et dans Acte 1, verset 8, lorsque Jésus dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », il est en train de dire exactement la même chose, à savoir que la terre telle que je la vois aujourd'hui ne me satisfait pas. Parce que cette terre-là n'est pas remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Mais je la veux comme cela. Et ça commence chez toi, dans des actes simples d'amour pour le prochain. On peut imaginer la vie quotidienne comme une série de gestes, de paroles, d'attitudes, de pensées que nous posons pour la gloire de Dieu. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Toute votre vie et toutes les parties de votre vie et tout ce que vous faites dans les plus petits détails de votre vie peut être vécu soit à la gloire de Dieu, soit à sa déshonneur. Vous voyez la radicalité de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, la radicalité de ce que Paul nous dit dans ce verset. On peut tout faire ou rien faire pour la gloire de Dieu. Toute notre vie est alignée ou pas alignée à cette mission-là. Et le but de cette mission-là, c'est un verset qui m'est cher et m'a été cher depuis longtemps. C'est Habacuc 2, 14. Imaginez un peu. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond des mers. La connaissance de la gloire de Dieu, des hommes et des femmes qui connaissent, qui reconnaissent et qui disent la gloire et la grandeur de Dieu, et ce, de la même façon que les eaux recouvrent le fond des mers, à savoir entièrement. Moi, je veux que les gens partout dans le monde connaissent la gloire du Seigneur. Mais ça commence lorsque moi, je connais la gloire du Seigneur. Ça commence lorsque mon proche connaît la gloire du Seigneur. Et lorsque dans des cercles concentriques et élargissants, les personnes autour de moi connaissent de plus en plus la gloire du Seigneur. C'est intéressant de regarder ce verset et de comparer cela à ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Là, Paul parle de sa mission d'implantation d'église, sa mission de l'annonce de l'évangile. Et il va citer la fin de ce verset. Il va le relier, comme nous avons fait cet après-midi, avec la création du monde. Il va dire la chose suivante. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, à briller dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous accomplissons la mission de Dieu lorsque nous indiquons Jésus-Christ, lorsque nous pointons les gens vers lui, lui qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Ça, c'est comment, que ce soit au proche ou bien au loin, nous relevons le défi de la mission proche de chez nous. Nous indiquons Jésus-Christ par l'annonce de l'Évangile. Et cela implique qu'il faut des églises partout pour que cette bonne nouvelle soit annoncée. Et donc, par l'annonce de l'Évangile, dans le contexte de l'église locale, où les communautés de disciples vivent leur quotidien à la gloire de Dieu, nous voulons implanter des églises partout en France. En ce moment, en France, il y a une église pour 33 000 habitants. On a calculé avec le CNEF, apparemment, que pour qu'un Français moyen ait l'occasion de rencontrer un chrétien capable d'expliquer, de vivre la grâce de Dieu, il faudrait une église pour 10 000 habitants. À savoir, pour accomplir la mission proche de chez nous, l'église en France et l'église en francophonie a besoin de tripler le nombre d'églises. Si nous nous soucions de la mission de Dieu, qui est de faire en sorte que chacun connaisse la gloire du Seigneur, logiquement, on doit être engagé et convaincu et motivé par l'implantation de nouvelles églises partout en France. Je suis actuellement pasteur d'une église à l'Est parisien. Et tout autour de cette église, il y a des villes de 20 000 habitants, 30 000 habitants, 50 000 habitants. Il n'y a pas un seul témoignage évangélique. Et si j'aime mon prochain comme j'aime moi-même, comment puis-je continuer à exister sans me soucier de leur sort, de leur sort éternel, mais aussi de leur sort sur cette terre? On a parlé de l'amour dans le quotidien de la vie, le fait d'aimer les gens comme je suis moi-même aimé par Dieu. Et donc, parce que j'aime les gens maintenant et pour l'éternité, je ne peux pas ne pas me soucier de cela. Je ne peux pas ne pas former les gens dans mon église pour les envoyer implanter des églises dans ces villes. Je ne peux pas ne pas envoyer des personnes de mon église vers ces villes-là pour y vivre et pour y témoigner de la gloire de Dieu. Et donc, relever le défi de la mission proche de chez nous, c'est comprendre cela et continuer à implanter des églises centrées sur l'Évangile partout en Europe francophone. Et cela veut dire que quelques personnes ici dans cette salle, pas tous, mais certaines personnes, vont devoir se lever, rejoindre des équipes d'implantation, être des implanteurs d'églises. Parce que la mission que Dieu nous a donnée dès le départ, de remplir la terre de sa gloire, de faire de la terre un jardin d'Éden entier, reste à accomplir en Europe francophone. Nous devons donc, à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous, et parce qu'il nous a remplis de son amour, nous lever et chercher des moyens pour implanter de nouvelles églises. Évidemment, il y a des moyens de faire, il y a des chemins tout tracés, il y a des personnes clés qui pourraient vous conseiller comment faire les prochains pas. Mais voici trois questions pour vous avant de vous donner la parole pour me poser des questions par rapport à ce que je viens de dire. D'abord, est-ce que tu vis ton quotidien pour la gloire de Dieu? C'est bien beau de vouloir chercher la gloire de Dieu pour quelqu'un d'autre, mais est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu pour nous-mêmes? Nous avons entendu Harry ce matin en parlant des pharisiens et en parlant des personnes comme Lévi. Parler du défi du péché dans notre vie. Nous avons parlé aussi dans la partie à vous, Marc, du besoin que nous avons de pouvoir parler parfois de ce que nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu dans notre vie, dans la sainteté, est juste une face de la médaille de la mission de Dieu au loin ou bien au proche. Est-ce que vous avez des zones d'ombre dans votre vie où ne vous vivez pas pour la gloire de Dieu dans un domaine ou dans un autre? Vous aurez à vous repentir, à revenir avec joie vers celui qui nous a sauvés et qui nous promet sa grâce qui ne connaît pas de fin. Si c'est le cas, je vous invite à faire cela pendant ces 2-3 jours. Deuxième question en guise de prochain pas. Est-ce que tu te soucies de ton prochain à tous les niveaux, là où vous êtes actuellement? À l'université, au lycée, dans le voisinage. Est-ce que vous avez trouvé les moyens concrets d'exprimer l'amour de Dieu pour le prochain? Je vous invite à chercher activement, intentionnellement, avec toutes les facultés que Dieu vous a données, de réfléchir, d'être créatif. Comment puis-je aimer concrètement mon prochain? Troisième question. Vois-tu le besoin ailleurs? Si tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie, si tu vois un petit peu la grâce de Dieu chez l'autre, chez le prochain, est-ce que tu peux lever tes yeux et voir les besoins dans les villes voisines de là où vous vous trouvez, où il n'y a pas un seul témoignage évangélique? Est-ce que vous pouvez voir les besoins dans votre fac, dans votre lycée, ou peut-être un GBU ou un GBL pourrait jouer le rôle d'un témoin? Est-ce que vous voyez dans les villes où il n'y a pas d'église, des personnes, des hommes et des femmes qui meurent sans jamais avoir entendu parler de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ crucifié? Relever le défi de la mission proche de chez nous commence dans notre cœur. Et si cette mission commence dans notre cœur et prend vraiment racine, alors les extrémités de la terre sont les limites. Je vais prier pour nous. Et après, il y a 30 minutes de questions de prévu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ. Tu nous as montré que notre mission est celle d'aimer notre prochain et de t'aimer toi. Et ce, par tous les moyens possibles. Seigneur, c'est vrai que nous avons échoué à cette mission et que dans ta grâce, tu nous as envoyé ton Fils afin de nous sauver, afin de nous montrer le chemin, afin de nous transformer, afin qu'il accomplisse sa mission au travers de nous aujourd'hui. C'est avec gratitude, avec joie que nous te prions. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre pleinement ta mission. Au nom de Jésus. Amen.